Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Chaque année dans le monde, 9 millions de personnes meurent d'un cancer, soit un décès sur 6. Selon l'OMS, ce chiffre passera à plus de 13 millions en 2030 et près de 70% des cas surviendront dans les pays en développement. À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, ce lundi, nous allons faire le point sur l'immunothérapie, une arme considérée comme révolutionnaire dans la lutte anti-cancer. L'arrivée de ce nouveau traitement en 2011 a bouleversé la prise en charge de certains patients atteints de cancers avancés, en particulier le mélanome et les cancers du poumon. L'immunothérapie a fait régresser, voire disparaître, des cancers réputés incurables et certains patients qui se pensaient condamnés ont miraculeusement guéri. Mais on en est toujours aux essais cliniques. L'immunothérapie ne soigne pas encore tous les types de cancers. Pourquoi ? Comment expliquer que tous les patients ne réagissent pas au traitement ? Faut-il, pour une meilleure efficacité, combiner l'immunothérapie avec la chimiothérapie ou la radiothérapie? Où en est la recherche? L'immunothérapie va-t-elle permettre d'aller vers un monde débarrassé du cancer ou tout au moins un monde où le cancer ne serait plus mortel? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Nelly Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aide-soignante. On vous a diagnostiqué un cancer de l'utérus en octobre 2014. Vous êtes en rémission depuis 2016 et c'est l'immunothérapie qui vous a sauvée. Je vous remercie d'avoir accepté de venir nous en parler. Également à mes côtés en studio, Marc Daéron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur invité à l'Institut Pasteur, chercheur émérite au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini et membre associé à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. En ligne de France Bleu Provence à Marseille, Éric Vivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'immunologie à l'université Aix-Marseille, directeur scientifique de la société de biotechnologie Innate Pharma et membre de l'Académie de médecine et de l'Institut universitaire de France. Et vous avez publié avec Marc Daéron l'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale aux éditions Odile Jacob. Dans 20 minutes, nous irons au Sénégal retrouver le professeur Saliou Diop, hématologue, directeur du Centre national de transfusion sanguine de Dakar. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur la prévention des cancers liés au papillomavirus humain, le HPV. Prévention qui passe par la vaccination des adolescents, filles et garçons. Dans ce domaine, la France a du retard. Nous en parlerons avec le docteur Olivier Jourdain, gynécologue obstétricien à la clinique Jean Villard à Bordeaux. Pour poser des questions ou témoigner, un seul numéro, le 33 1 84 22 75 2 fois.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Éric Vivier, ma première question est pour vous. Pourquoi parle-t-on de l'immunothérapie comme d'une révolution médicale ?
D'abord à partir des résultats cliniques. Il existe de trop nombreuses pathologies tumorales, de trop nombreux cancers pour lesquels les patients sont en échec thérapeutique avec les approches conventionnelles des traitements contre le cancer, qui, je le rappelle, sont la chirurgie, hein, on essaye d'enlever le cancer, la radiothérapie, on essaye de brûler le cancer, la chimiothérapie, on essaye de tuer les cellules du cancer. Et bien, quand on est en échec de ces traitements, il n'y avait jusqu'à très récemment que peu de solutions, voire pas de solutions. L'immunothérapie a apporté pour une partie de ces patients, des solutions vraiment incroyables, dans la mesure où ces pathologies, encore une fois très sévères, ont pu être contrôlées. Donc on a toujours du mal, hein, dans le cas du cancer, à parler de guérison, mais on parle de contrôle de la maladie, et de manière très intéressante, de contrôle de la maladie à très long terme. Et donc ça, c'est une vraie révolution.
Marc Daéron, donc on change de stratégie, c'est ça que ça veut dire l'immunothérapie. On ne vise plus directement la tumeur pour l'enlever ou la détruire. On stimule le système immunitaire d'un patient pour qu'il combatte lui-même le cancer.
Oui, c'est un tout petit peu plus complexe que ça.
Je m'en doute, mais c'est vrai qu'on essaye de simplifier.
Mais oui, la première approche, comme vient de le rappeler Éric Vivier, c'est vraiment de s'attaquer au cancer. On essaye de s'en débarrasser. hein, des trois façons dont il a parlé. Et puis, il y a une autre façon, c'est de charger le système immunitaire de faire ce travail. C'est-à-dire, on a compris depuis très longtemps, on imagine depuis très longtemps qu'il est possible que le système immunitaire que nous possédons tous soit capable de nous débarrasser des cellules tumorales. Et il a fallu très 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 longtemps pour que cette idée soit démontré et pour qu'effectivement on puisse réellement mettre en place, savoir exactement ce qui est responsable de cela, quels sont les outils que le système immunitaire est capable de mettre en œuvre. Il est capable de voir les tumeurs, il est capable de faire des anticorps, il est capable de faire des cellules qui, ensemble et séparément, sont capables d'éradiquer les cellules tumorales. Ça, c'est une première façon, c'est de dire, voilà, on va aider le système immunitaire à faire ce travail-là. On va l'aider à reconnaître les cellules, ça va être des tentatives de vaccination, par exemple. On va l'aider à faire son travail, ça va être des stimulations de différentes sortes. Et puis, on s'est rendu compte aussi que, parce qu'il y avait des cancers, bien qu'il y ait ce système de surveillance immunitaire que le système immunitaire assurait, eh bien, la présence même, l'existence même du cancer démontrait que ça marchait pas à tous les coups. Ce qui a été vraiment à l'origine de cette révolution, c'est ce qui a permis de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et ce qu'on a compris, c'est tout simple. C'est assez simple, finalement, dans son principe, même si c'est très compliqué dans la réalité. C'est tout simple. La raison est simple parce que, simplement, le système immunitaire est extrêmement contrôlé, parce qu'il est extrêmement efficace. Et parce qu'il est extrêmement efficace, il a besoin d'être extrêmement contrôlé. Et on a compris que ce contrôle empêchait le système immunitaire d'être pleinement efficace vis-à-vis des tumeurs cancéreuses. Lorsqu'on a compris ça, eh bien, on a pu identifier les mécanismes de contrôle. Et surtout, on a pu apprendre comment lever ces mécanismes de contrôle. Et une fois ces mécanismes de contrôle levés, eh bien, le système immunitaire s'est révélé être effectivement capable de faire ce qu'on ne l'avait jamais vu faire avant, c'est-à-dire effectivement de traiter de façon extrêmement puissante des tumeurs cancéreuses pour lesquelles on n'avait pas d'outils thérapeutiques. Donc c'est en ce sens qu'il y a vraiment un changement de façon de voir les choses et que c'est une véritable révolution aussi conceptuelle. C'est-à-dire que c'est une révolution thérapeutique, mais c'est aussi une révolution conceptuelle.
Est-ce qu'on peut comparer le système immunitaire en cas de cancer diagnostiqué à une sorte de champ de bataille avec des cellules cancéreuses qui s'organisent en citadelles, des cellules complices qui paralysent l'action des cellules cancéreuses, des checkpoints, tout ce vocabulaire lié à la bataille vous semble approprié ?
Depuis toujours, hein, on utilise des termes militaire pour décrire le système immunitaire. Probablement, c'est pas un hasard d'ailleurs. Probablement parce que l'histoire du système immunitaire est extrêmement marquée historiquement. Hein. Les débuts de l'immunologie, les débuts de l'immunité, ça s'est passé entre la France et l'Allemagne, entre la guerre de 1870 et la guerre de 14. Donc c'est vraiment un moment où ces deux pays qui ont construit l'immunité et qui ont décrit l'immunité étaient en train de se regarder de part et d'autre de la vallée du Rhin, dans un contexte extraordinairement tendu. Et je pense que ceci n'est peut-être pas sans relation avec le fait qu'effectivement, le système immunitaire était décrit en termes de guerre, en termes de guerriers. Il y avait les armées des cellules défendues par l'immunologie française, et en face, il y avait les armées de molécules, c'est en réalité les anticorps, l'artillerie, qui étaient défendues par l'immunologie allemande.
Et aujourd'hui, on parle de stratégie.
Bien entendu. Or, c'est une façon de décrire les choses que moi, j'aime pas. J'aime pas parce que c'est une façon de simplifier les choses. En réalité, on sait très bien, depuis maintenant pas mal de temps, que le système immunitaire, il ne fait pas que voir les méchants. Il ne fait pas que voir ce qu'il y a autour et qui nous menace. Il voit tout. Y compris nous-mêmes. Y compris les allergènes qui ne font rien, la plupart d'entre nous. Hein? Mais le système immunitaire, il est capable de voir tout cela. Et donc, en fait, il a une relation au monde qui est beaucoup plus subtile que simplement de défendre une citadelle contre des envahisseurs potentiels. Il est là, peut-être même, pour nous aider à vivre avec tous ces autres qui vivent autour de nous. Et qui vivent même en nous aujourd'hui, puisqu'on a compris aujourd'hui qu'on a énormément de microbes qui font partie de nous-mêmes et avec lesquels, si nous ne vivions pas en bonne entente, eh bien, nous serions malades.
Éric Vivier, nous sommes constitués, je crois, de 50 000 milliards de cellules. Comment une seule cellule qui se transforme en cellule cancéreuse peut-elle tout dérégler ?
Alors en fait, il s'agit de processus qui arrivent bien évidemment par étapes. Comme l'a dit Marc Daheron, en fait, l'ensemble de notre organisme est très contrôlé. Il n'y a pas que le système immunitaire, il y a l'ensemble de notre organisme. Donc on sait que la vie est basée sur des cellules. Comme vous l'avez dit, il y a des milliards et des milliards de cellules dans notre organisme. Et ces cellules, en fait, pour la plupart, elles vont devoir se multiplier à un moment. Et quand elles vont devoir se multiplier, elles vont devoir aussi dupliquer notre matériel génétique, leur matériel génétique et l'ADN. Eh bien, en fait, ce système est assez compliqué et peut induire des erreurs. Et quand il y a des erreurs, il y a des mutations donc qui peuvent être induites dans cet ADN. Et donc, les cellules sont potentiellement différentes. Eh bien, pour faire court, à la suite de l'accumulation de plusieurs de ces mutations, ces cellules qui étaient normales, eh bien, elles peuvent devenir éventuellement des cellules qui pourraient devenir un cancer. Encore faut-il qu'elles puissent se développer et éventuellement aussi se multiplier à l'intérieur de l'organisme. Donc on voit que le passage d'une cellule qui a une mutation jusqu'à un cancer est un processus qui est généralement long, très compliqué, très contrôlé, mais malheureusement on voit qu'il y a de plus en plus de cas de cancer. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser nos défenses immunitaires de telle manière à mieux le contrôler.
Cécile sur Facebook nous écrit de Paris. Y a-t-il des recherches en cours pour soigner d'autres pathologies que le cancer avec l'immunothérapie ? Marc Daheron.
Oui, il y a des utiliser le système immunitaire pour mieux combattre les maladies, c'est effectivement une idée qui est très répandue, qu'on essaye de faire. C'est utilisé par exemple pour essayer d'augmenter. On peut peut-être revenir même complètement en arrière. La vaccination. La vaccination des origines, c'est une immunothérapie.
Oui, Pasteur.
Oui, bien entendu. Hein, c'est une immunothérapie. C'est la mise en œuvre, c'est une stimulation du système immunitaire avec des pathogènes qui ont été atténués. C'est toute le grand travail de Pasteur pour faire en sorte que le système immunitaire puisse répondre contre ces virus ou ces bactéries qui ont été modifiées et ensuite nous protéger contre les maladies. Donc, la vaccination, c'est déjà une immunothérapie. Alors, bien entendu, après, il y a eu la sérothérapie. Hein, on a tous reçu à un moment ou à un autre du sérum antitétanique, par exemple, quand on se blessait. Eh bien, ça, c'est de l'immunothérapie aussi. Et de l'immunothérapie, on cherche à l'améliorer de tas de façons en utilisant des anticorps, c'était la sérothérapie, en utilisant des cellules dans un certain nombre d'autres situations, en fournissant au système immunitaire des outils qu'il n'a pas été capable de faire lui-même. On donne par exemple des immunoglobulines qui sont prélevées chez de très nombreux donneurs qui ont des effets thérapeutiques tout à fait importants dans certaines maladies auto-immunes à la suite de mécanismes qui sont d'ailleurs tout à fait inattendus et qui ne sont pas ceux qu'on espérait. Donc l'immunothérapie, oui, il y en a partout. Et c'est utilisé pour des tas de choses.
Professeur Éric Vivier, en cas par exemple de cancer du poumon, est-ce qu'on commence tout de suite l'immunothérapie ou est-ce qu'on commence par les traitements traditionnels, chimiothérapie ou radiothérapie ?
Alors ça, c'est l'histoire qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Les traitements d'immunothérapie qui sont pour l'instant approuvés, hein, et il y en a plus d'une dizaine qui sont approuvés pour le moment, en particulier par des anticorps, et je pense qu'on va y revenir, eh bien, comme ils ont été mis en place il n'y a pas tellement longtemps, on apprend à les utiliser. Et vous savez que pour toute pathologie, en particulier pour les pathologies du cancer, il y a des premières lignes de traitement, des deuxièmes lignes de traitement, si la première ligne a échoué, etc. Alors pour l'instant, ces médicaments d'immunothérapie ont toujours été testés en dernière ligne, c'est-à-dire quand il n'y avait plus d'autres possibilités thérapeutiques. Eh bien, au fur et à mesure que l'on voit que ces médicaments d'immunothérapie peuvent contrôler le cancer, eh bien, on les fait rapprocher de la première ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un cancer du poumon, on commence toujours par des premières lignes qui sont chirurgie, si c'est possible, chimiothérapie, dans la plupart des cas, et on essaye d'associer l'immunothérapie de la manière la plus précoce possible. Et pour vous dire, des essais cliniques qui ont été dévoilés lors d'un grand congrès contre le cancer l'an dernier aux États-Unis ont montré qu'on pouvait même faire de l'immunothérapie avant de faire de la chirurgie quand le cancer du poumon était opérable. Donc on est en train de construire cette histoire avec plusieurs armes. Avant, il y avait que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Maintenant, on rajoute l'immunothérapie et on essaye d'utiliser au mieux non seulement ces différentes armes, mais aussi la séquentialité dans quel ordre on doit les utiliser.
Nelly Deschamps, en octobre 2014, vous aviez alors 40 ans. On vous a diagnostiqué un cancer de l'utérus métastasé, c'est-à-dire à un stade déjà avancé. Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs, précurseurs? Est-ce que vous êtes allé voir votre gynécologue parce que vous aviez des douleurs ou parce que vous sentiez que quelque chose n'allait pas?
Non, pas du tout. J'ai vu mon gynécologue pour une simple visite de contrôle. J'avais un implant dans le bras.
Un implant contraceptif.
Contraceptif. Et je l'ai gardé 2 ans. J'avais des saignements pendant que j'étais avec cet implant, mais rien d'inquiétant pour moi puisque ça faisait partie des effets secondaires. Donc, au retrait de l'implant, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des saignements et visite chez le gynécologue et là.
Et donc là, c'est découverte. Le frottis qui a révélé l'existence du cancer.
Tout à fait.
Alors, vous avez aussitôt été prise en charge à l'Institut Curie. Les examens ont confirmé les résultats du frottis. Comment avez-vous réagi quand on vous l'a annoncé?
Oui, malheureusement, très très dure nouvelle à accepter. Pour moi, ça a été terrible. Je pensais en premier avec mes enfants, bien sûr.
Oui, vous avez 4 enfants.
4 enfants. Et
que vous élevez seule.
Que j'élève seule. Donc, la vie s'est écoulée. Et j'ai été très bien prise en charge, heureusement, à l'Institut Curie, à Saint-Cloud, pour déjà, premièrement, faire une chimiothérapie avant l'intervention chirurgicale et continuer la chimiothérapie pendant 1 an et demi.
Alors, comment ça s'est passé? À quoi a ressemblé votre quotidien pendant cette année et demie?
Ça a été très dur parce que ma maman, qui habitait en province, a été obligée de revenir chez moi. Je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants toute seule. Les traitements, bien sûr, avec tous les effets secondaires, c'est très dur à gérer.
Quel exemple d'effets secondaires?
La fatigue intense et j'avais aussi des douleurs suite à l'opération. Et vraiment, au niveau de la chimio, toutes les trois semaines, j'avais... pendant 3 heures de chimio, je ne m'en remettais pas. Du mardi au dimanche, j'étais couchée.
Donc, vous avez dû donc arrêter de travailler, évidemment.
Voilà, arrêt du travail.
Et alors, est-ce que cette chimiothérapie a donné de bons résultats?
Oui, des très bons résultats. J'ai été en rémission, mais pas longtemps, 4 mois. En fait, on m'avait quand même continué un médicament, mais une thérapie ciblée, qui marchait bien. Et d'un seul coup, j'ai récidivé sur la vessie.
Et alors là, ça a été le coup de bambou, entre guillemets?
Tout à fait, parce que du coup, pendant ces 4 mois où j'étais bien, j'avais repris le travail en mi-temps thérapeutique. Donc pour moi, la vie reprenait son cours. Et la récidive sur la vessie m'a vraiment...
Cassé. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a proposé l'immunothérapie?
Tout à fait.
Est-ce que vous en aviez entendu parler?
Alors, j'en avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler des chimiothérapies, bien sûr, puisque je l'avais eu, l'hormonothérapie. Mais l'immunothérapie, je ne connaissais pas. Pourtant, je travaille aussi à l'hôpital, mais ce n'était pas connu où j'étais. Et du coup, on a mis un peu de temps à me la mettre en place parce que j'avais des difficultés au niveau des reins. J'éliminais plus, donc il a fallu que vraiment le docteur Romano se batte pour avoir ce traitement d'immunothérapie.
Et on vous l'a proposé, on ne vous l'a pas imposé, il fallait être volontaire.
Oui, de toute façon, Curie, il faut être volontaire, voilà, il faut tout le temps...
Et vous avez été aussitôt partante, vous n'avez pas hésité?
J'ai pas hésité une seule fois, dès le début de la maladie, pour moi c'était... De toute façon, j'avais plus trop de choix au stade où j'étais. Il fallait que je me batte, que j'ai cette force et surtout qu'on m'aide. Et je voulais vraiment que ce soit Curie.
Et alors, au bout de combien de temps avez-vous ressenti les effets ou peut-être que je dois parler de bienfaits de l'immunothérapie?
Alors, les bienfaits, ça a été tout de suite. Dès la première injection, en fait, parce que j'avais des ganglions qui avaient beaucoup grossi. Donc, du coup, ce qui permettait aucune élimination... au niveau de mon corps. Et dès la première injection, j'ai senti, j'avais un ganglion au niveau de l'aine qui avait déjà dégonflé. J'ai senti ce bien-être tout de suite et je me suis dit, ça va marcher.
Et alors, aujourd'hui, vous êtes en rémission donc depuis octobre 2016. Donc, ces ganglions, ils sont toujours là, ils n'ont pas disparu, mais ils sont sous contrôle.
Tout à fait, parce que j'avais une récidive ganglionnaire quand même aussi. Donc, comme on ne peut plus les retirer pour pas qu'il y ait une flambée de la maladie, ils sont là, mais ils sont stables. On les contrôle tous les 3 mois par un scanner.
Vous avez repris votre travail?
Oui, à 80%. J'ai repris une vie normale, sans effet secondaire en plus. Donc, vraiment...
Et alors, est-ce que la maladie vous a changé ou a changé votre façon de voir la vie?
Oui, Oui, je vis à 200%. J'étais déjà une très bonne vivante, mais alors maintenant, je profite de chaque instant que la vie peut me donner. Et vraiment, je garde l'espoir, et je garde l'espoir aussi pour tous les patients, pour tous les gens qui sont atteints de cette maladie, j'y crois. Et il faut se battre, avoir la force et faire confiance en la médecine.
Professeur Marc Daheron, est-ce que l'exemple de Nelly, le témoignage de Nelly illustre cette révolution qu'est l'immunothérapie, au sens où maintenant on peut vivre avec un cancer, tranquillement, entre guillemets?
Oui, alors d'abord merci pour ce témoignage qui, je trouve, est une belle histoire d'une certaine façon, et je crois qu'il est probablement exemplaire de beaucoup de situations. Je crois que vous représentez une situation qui est assez fréquente. Peut-être que ce que ça nous apprend aussi, c'est ça, c'est qu'on va maintenant peut-être pouvoir vivre avec son cancer sans pour autant être malade. Je crois que peut-être une des approches, toutes ces approches finalement combinées, vont peut-être ne pourront pas éradiquer tous les cancers, mais permettront probablement de vivre avec son cancer de façon satisfaisante. Peut-être on peut rappeler que le sida aujourd'hui est une situation de ce type.
C'est-à-dire on peut faire un parallèle entre l'immunothérapie et la trithérapie.
C'est-à-dire que la trithérapie, c'est un assez bon exemple, justement, parce que l'immunothérapie, pour l'instant, on a très peu de d'outils qui sont mis en œuvre. Mais, et peut-être que trois, peut-être que quatre, finalement, auront le même genre d'effet que dans le sida. Bien, c'est une trithérapie qui est nécessaire. Et dans le sida, cette trithérapie, elle ne fait pas complètement disparaître le virus, puisque si je ne me trompe pas, Éric Vivier pourra me corriger si je me trompe, un seul patient a jamais été déclaré guéri du sida. Tous les gens qui ont eu le sida et qui vivent une vie normale avec une espérance de vie parfaitement identique à celle de la population générale, eh bien, ces gens-là vivent avec le sida, sauf qu'ils sont plus malades. Donc, probablement, c'est quelque chose qu'on peut espérer qu'on atteindra pour un grand nombre de patients. Mais sans qu'ils soient exclus, ceci dit, que certains patients soient réellement guéris. Mais je pense qu'Éric Vivier pourra mieux parler de cet aspect-là que je ne le peux.
Éric Vivier, vous voulez ajouter un mot pour compléter ce que vient de dire Marc Daheron ?
Mais non, je confirme évidemment tout ce que vient de dire Marc. Je voudrais revenir sur le témoignage. Le témoignage est véritablement émouvant, et merci madame de l'avoir partagé avec nous. J'aimerais rajouter quand même un élément qu'on n'a pas encore abordé et qui me paraît essentiel, c'est que l'ensemble des découvertes dont on parle aujourd'hui, les découvertes d'immunothérapie qui permettent de mieux contrôler le cancer, sont issues d'une recherche qui est purement fondamentale. Dire certains d'entre nous ont participé à ces travaux il y a maintenant plus de 10 ans, quand on a collectivement découvert qu'il y avait effectivement des freins sur la réponse immunitaire. Eh bien, cette découverte des freins n'était pas pour soigner le cancer. Elle était juste guidée par la curiosité de certains d'entre nous à essayer de disséquer au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, comment fonctionnait notre système immunitaire, parce qu'il est juste fascinant, extrêmement efficace et très beau d'une certaine manière. Et donc, je pense que la bonne nouvelle que nous apporte ce témoignage est une bonne nouvelle pour tout le monde. Une bonne nouvelle évidemment pour les patients, une bonne nouvelle aussi pour les médecins qui ont de nouvelles options thérapeutiques à proposer à leurs patients, mais une bonne nouvelle aussi pour toute la recherche fondamentale dont on dit qu'elle doit travailler sur ça ou sur cet autre sujet. En fait, je ne pense pas. Je pense que la recherche fondamentale doit travailler tous azimuts, et c'est l'ensemble de l'histoire des sciences qui nous l'apprend, et à travers cette recherche tous azimuts, eh bien on peut avoir effectivement, à un moment ou à un donné, des applications que l'on ne pouvait pas anticiper, par construction en quelque sorte, puisque quand on n'a pas encore inventé la roue, il est difficile d'inventer le pneu anti-pluie. Et donc c'est ça dont on parle ici. Et c'est un élément, je pense, très important que je voulais partager avec tous vos auditeurs.
Alors je propose maintenant de faire une pause musicale avec une chanson que vous avez choisie, Nelly. Speed, extrait du dernier album de Zazie.
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces.
Zazie dans Priorité Santé. Nous faisons le point aujourd'hui sur l'immunothérapie. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous sommes toujours avec Nelly Deschamps, qui a suivi avec succès un traitement d'immunothérapie pour un cancer de l'utérus, avec le professeur Éric Vivier et le chercheur Marc Daéron, qui viennent de publier, il y a tout juste un mois, l'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale, aux éditions Odile Jacob. On va partir pour le Sénégal à présent, où nous attend le professeur Saliou Diop. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue, directeur du Centre national de transfusion sanguine de Dakar. Est-ce qu'au Sénégal, les gens connaissent l'immunothérapie, professeur ?
Alors, bon, en général, le niveau de connaissance quand même de ces, sur ces nouveaux produits est assez faible dans nos pays, hein, comme vous le savez. La plupart des équipes médicales en Afrique ne participent pas souvent aux essais cliniques qui précèdent donc la mise sur le marché. Et il faut aussi quand même reconnaître que du fait des coûts qui sont assez élevés au début de la commercialisation, souvent les laboratoires pharmaceutiques n'investissent pas dans la communication sur le produit dans nos pays. C'est donc toujours avec un décalage de quelques années que souvent le corps médical commence réellement à utiliser ces médicaments-là.
Alors, comment traitez-vous les personnes qui ont un cancer ?
Classiquement, nous utilisons les moyens qui sont connus, hein, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Maintenant, pour les rares patients qui peuvent avoir accès à ces nouveaux produits, si je prends l'exemple du traitement des lymphomes, donc une forme de cancer des cellules immunitaires, hein, on appelle les lymphomes, où on a montré que l'utilisation de l'immunothérapie, notamment du rituximab, permettait d'améliorer le pronostic. Aujourd'hui, quand on fait le point sur nos patients, il y a moins de 10% de nos patients qui peuvent vraiment bénéficier de ce traitement-là, parce que c'est un traitement quand même dont le coût va multiplier par 15, hein, le coût global des médicaments. Et malheureusement, la plupart de nos patients doivent payer le traitement par eux-mêmes et ne peuvent pas avoir accès. Donc globalement, la plupart des patients ici, c'est plus la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie.
Et alors, quel est le taux de guérison ou le taux de survie des patients atteints d'un cancer ?
Bon, moi, je suis hématologue, je suis plus donc les cancers des cancers du sang. Et là, si je prends l'exemple de ces lymphomes B, qui sont une forme particulière de lymphome B diffus à nos cellules, actuellement, grâce à l'utilisation de l'immunothérapie, grâce à l'utilisation du rituximab, les taux de contrôle de la maladie sont passés de 70% à 90%, c'est-à-dire qu'avec l'utilisation de l'immunothérapie, on peut guérir de 7 à 9 patients sur 10. Malheureusement, dans nos pays, puisque ce traitement n'est pas souvent disponible, le taux ne dépasse pas 25%. Donc vous voyez que quand même c'est des taux de contrôle de la maladie qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on peut observer en Occident.
Et est-ce qu'il y a aussi un problème dans la détection du diagnostic, un problème de retard du diagnostic ?
Bien sûr, ça explique en grande partie le pronostic assez défavorable. Hein. Il y a beaucoup de limites par rapport à la prise en charge. C'est bien entendu le retard du diagnostic. Souvent, le cancer est souvent considéré comme une affection fatale, parce que très souvent les moyens de traitement ne sont pas disponibles et il y a toute une émotion négative autour et c'est ce qui fait que les patients viennent malheureusement très souvent à des stades très très avancés, donc il y a un retard de diagnostic. L'autre problème, c'est aussi que le type même de maladie, parfois dans le diagnostic, du fait qu'il n'y a pas toujours tous les moyens sur le plan biologique, sur le plan de l'imagerie médicale, donc la caractérisation du type de cancer n'est pas très précise. Et bien sûr, après, il y a l'inaccessibilité des traitements nouveaux. Je pense que c'est la conjonction de tout ça qui fait que souvent, le pronostic de la maladie est plus sévère en Afrique, globalement, en Occident.
Alors, vous, au Sénégal, quels sont vos moyens de prévention et quels sont vos messages de sensibilisation ?
Alors, au Sénégal, la prévention est surtout dirigée vers les cancers les plus fréquents. Hein. Il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées pour la vaccination contre l'hépatite B. Plus récemment, il a été introduit également la vaccination contre le virus du papillon humain, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Il y a aussi sur le plan législatif quand même un renforcement. Nous avons récemment la promulgation de la loi anti-tabac pour la prévention du cancer. Et je pense qu'il y a aussi une bonne implication de la société civile. Les associations, notamment la Ligue sénégalaise contre le cancer, mènent beaucoup d'actions dans ce sens-là, avec des séances de dépistage du cancer du col, des campagnes pour faciliter l'accès à la mammographie, des séances de sensibilisation, éducation à l'endroit des populations. Je pense qu'aujourd'hui, les principaux messages, en tout cas, si je peux les résumer, c'est vraiment l'éducation à un mode de vie sain, le dépistage, la vaccination. C'est vraiment ça, les messages de prévention.
Merci beaucoup, professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine de Dakar, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous. On va prendre la question d'un auditeur au standard ou d'une auditrice, Rachel, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Rachel.
Bonjour RFI, bonjour Priorité Santé. En fait, moi j'ai une préoccupation. Mon père a eu des problèmes de prostate ici à Kinshasa. Il y a 2 ans passé, il n'a pas été opéré. On lui a placé justement une sonde à vie pour évacuer ses urines, l'avait mal à uriner. Et présentement, il est à Manchester et à un hôpital de Lille. On a constaté que c'était un cancer et présentement, c'est inopérable. Il suit justement un traitement avec des hormones. Je veux savoir s'il va guérir avec la prise de ces hormones.
Qui peut répondre, professeur Éric Vivier?
Alors, c'est très difficile, bien évidemment, d'établir tout pronostic que ce soit à distance sur un cas médical que l'on ne connaît pas. Je voulais juste revenir sur ce qu'on disait au départ, qui est l'immunothérapie. L'immunothérapie est un traitement très différent de l'hormonothérapie dont vous parlez, madame. Et je voulais juste dire que, par rapport à tout ce qui a été dit sur les succès de l'immunothérapie, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et en fait, malheureusement, le cancer de la prostate est un des cancers dans lequel il y a encore beaucoup de chemin à faire pour savoir encore comment on peut utiliser l'immunothérapie.
Marc Daéron, contrairement à Nelly, tous les patients ne réagissent pas au traitement d'immunothérapie. Est-ce qu'on connaît le pourcentage d'échecs et est-ce qu'on sait pourquoi ça ne marche pas sur tous les patients?
Alors, les pourcentages d'échecs, c'est un petit peu difficile à dire très précisément parce qu'il y a cancer et cancer. Mais, et puis aussi parce que les choses évoluent très vite. Au tout début, les premières immunothérapies, les premiers inhibiteurs de contrôle immunitaire qui ont été utilisés, ça ne marchait que dans 20% des cas. Ce qui est à la fois extraordinaire parce que c'était 20% des cas dans lesquels ça ne marchait jamais, et que donc le verre était à 20% plein, ce qui est extraordinaire parce que c'est parce qu'avant il était complètement vide. Mais il y avait 80% des gens chez qui ça ne marchait pas. Ce qui est en train de se passer, c'est que en combinant, comme l'a expliqué Éric Vivier, en combinant avec d'autres traitements, avec la chimiothérapie et en particulier, eh bien les choses progressent. Aujourd'hui, ces cancers qui ne répondaient qu'à 20%, eh bien on est en train d'atteindre des valeurs qui sont un peu moins de la moitié, mais presque la moitié. Dans d'autres cas, c'est davantage. Donc, en fait, il y a, en fonction des types de cancers, il y a des variations considérables, mais il y a aussi des choses qui sont réellement en train de progresser. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'on sait pourquoi tout le monde ne répond pas? Bien, parce qu'on est tous différents, d'abord, et qu'on est différents par rapport à la médecine, par rapport à la maladie, hein, on réagit différemment par rapport à la maladie, et en même temps, on réagit différemment par rapport au traitement
Certains parlent de dérèglement du microbiote intestinal, qui entraînerait un dysfonctionnement global du système immunitaire.
Alors,
immunitaire.
Oui, immunitaire. C'est effectivement une découverte des dernières années que les innombrables bactéries qui vivent dans notre tube digestif, mais pas seulement d'ailleurs, hein, qui vivent sur la peau, qui vivent dans le nez, dans les voies génitales, dans les poumons même, eh bien, ces bactéries, non seulement ne nous veulent pas du mal. Non seulement on vit avec, mais en même temps, c'est une espèce de, d'équilibre entre eux et nous. Et ils nous apportent des bienfaits. Et nous, on leur apporte aussi des bienfaits. Donc, cette espèce de d'équilibre entre nous, eh bien, on comprend que c'est nous, tout ça. Que ces très innombrables bactéries que nous avons dans le tube digestif, elles font réellement partie de nous. Et que si on les avait pas, eh bien, on serait malade. C'est-à-dire qu'on est en train de changer profondément notre façon de voir les choses. Avant, on a construit un système immunitaire qu'on avait conçu comme étant un système pour détruire tout ce qui était étranger. Et les bactéries, c'était l'étranger par excellence. Eh bien, maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est pas tellement et pas seulement le système immunitaire qui contrôle le monde microbien, c'est que c'est aussi les microbes qui contrôlent le système immunitaire. La preuve, c'est que les enfants qui naissent par césarienne, par exemple, c'est-à-dire dans les conditions stériles, qui n'ont pas, au moment de l'accouchement, un ensemencement avec les germes des voies génitales de la mère, eh bien, ces enfants ont un système immunitaire qui n'est pas complètement, qui est un peu atrophié, qui marche pas très bien. Et on le sait encore plus avec les souris qu'on peut élever, qu'on peut faire naître par césarienne, qu'on peut élever dans un milieu complètement stérile. Eh bien, celles-là, à qui on donne de l'eau stérile, eh bien, et de la nourriture stérile, eh bien, celles-là, elles développent pas de système immunitaire. Donc, on comprend aujourd'hui que c'est un équilibre qui s'instaure entre notre système immunitaire et le monde microbien qui fait partie de nous et que, bien entendu, c'est un équilibre qui marche dans tous les sens. De telle sorte que, oui, un déséquilibre de la flore intestinale peut entraîner des dysfonctionnements du système immunitaire et peut empêcher des traitements d'immunothérapie d'être pleinement efficaces.
Merci beaucoup Rachel de nous avoir appelé de Kinshasa. Bonne journée à vous. Nelly, est-ce que vous avez mieux toléré l'immunothérapie par rapport à la chimio?
J'ai beaucoup mieux toléré l'immunothérapie parce que j'ai pas ressenti d'effets secondaires comme la chimiothérapie et surtout sur le plan physique aussi puisque il y a pas de perte de cheveux. Pour moi, ça a été plus dur dans la maladie que le physique.
Marc Dairon, il y a des effets secondaires à l'immunothérapie quand même. Il y a le développement d'affections auto-immunes.
Oui, alors voilà, c'est un des problèmes extrêmement difficile à résoudre, mais assez facile à comprendre là encore. Si on comprend que le système immunitaire ne fait pas des tas de choses nocives pour l'organisme parce qu'il est contrôlé, c'est-à-dire nous ne sommes pas tous allergiques, nous ne répondons pas à nos propres constituants et ne nous détruisons pas nous-mêmes, c'est parce que le système immunitaire est sous contrôle. Ce contrôle, il est là pour cela, j'aime pas cette expression pour, mais il est là, c'est ce qu'il fait, c'est sa raison d'être. À partir du moment où on le libère, c'est formidable parce que on le rend capable d'agir sur ce sur quoi il n'agissait pas très efficacement. Mais bien entendu, si on le libère, eh bien, il se met aussi à faire tout ce qu'il était empêché de faire auparavant. Donc, une des complications, ça va être effectivement l'apparition de maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1, par exemple. Ceci dit, quand on est dans une situation où la vie est en jeu, dans une situation où l'espérance de vie est limitée, c'était le cas par exemple du cancer du mélanome métastatique, hein, c'était vraiment des durées de vie moyennes extrêmement réduites.
Le cancer de la peau.
Pardon, le cancer de la peau, effectivement. Eh bien, lorsqu'on est dans cette situation-là, on peut certainement prendre ce risque de développer une maladie auto-immune, d'autant que ces maladies peuvent être contrôlées pour elles-mêmes. On sait traiter un diabète de type 1. Hein. Donc, oui. Ces nouvelles immunothérapies ne sont pas sans effets secondaires. Ça ne sont pas du tout les effets secondaires de la chimiothérapie. C'est pas du tout toutes ces difficultés à vivre. Mais c'est effectivement le risque de développer d'autres pathologies. Mais ces autres pathologies peuvent être elles-mêmes traitées par des traitements efficaces.
On va retourner au standard où nous attend Salif. Salif, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous nous appelez de Ségou au Mali. Salif, on vous écoute.
Oui. Bon, voilà, j'avais vraiment une question qui me fatiguait un peu. Donc, en fait, j'avais commencé à fumer en 1998.
Et vous aviez alors quel âge?
J'avais 16 ans.
D'accord.
Ouais.
Et vous avez arrêté
donc,
quand?
J'ai arrêté en janvier 2017.
Et alors, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes inquiet pour votre santé?
Effectivement, je suis très inquiet de ma santé.
Professeur Éric Vivier, bon, c'est pas parce qu'on fume qu'on attrape un cancer du poumon, et parfois on ne fume pas et on attrape un cancer du poumon. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Salif ?
Non, s'il est vrai que c'est pas parce qu'on fume qu'on va forcément attraper un cancer du poumon, il n'en reste pas moins vrai que c'est l'exemple même d'un cancer qui est extrêmement favorisé par des facteurs extérieurs et donc par le fait de fumer. Donc il faut absolument faire en sorte de combattre cette tabagie parce que le fait de fumer, encore une fois, favorise le cancer de poumon de manière qui est déjà démontrée.
Donc, vous recommandez à Salif d'aller voir son médecin, de faire une radio de contrôle, peut-être ?
Ah bah, encore une fois, il est très très difficile de voir à distance quoi faire sur les cas particuliers. Mais effectivement, déjà, il faut arrêter de fumer, hein, c'est une évidence. Et effectivement, consulter le plus rapidement possible, puisque le dépistage des cancers est un des facteurs qui permet ensuite une meilleure prise en charge en cas de résultats malheureusement positifs.
Marc Daéron, dans le futur, est-ce qu'on peut imaginer qu'on administrerait un traitement d'immunothérapie à quelqu'un avant que le cancer ne se déclare ? Je pense par exemple à l'actrice Angelina Jolie qui avait préféré subir l'ablation des deux seins pour éviter un cancer qui pesait sur elle comme une épée de Damoclès à cause du facteur héréditaire. On pourrait éviter ces opérations préventives lourdes grâce à l'immunothérapie ?
Non,
on n'en est pas là.
C'est une question extrêmement compliquée, mais c'est la question qui est posée derrière, c'est la question de la prévention. Alors après, la question de la prévention est jusqu'où doit-on aller et à quel prix ? Hein, parce que je crois qu'il faudra qu'on y revienne sur cet aspect-là, mais le professeur Diop tout à l'heure a posé le problème du coût, hein, et je crois que là, c'est absolument essentiel. Mais dans la prévention, ça compte aussi. Ce que je crois, et peut-être ça a aussi une façon de répondre tout à l'heure, vous avez posé la question, vous avez fait remarquer que des gens ont des cancers, on peut avoir un cancer du poumon sans avoir jamais fumé. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être indemne de cancer, c'est probablement quelque chose qui est une illusion, c'est impossible. Nous n'allons pas éradiquer le cancer comme on a pu éradiquer la variole. C'est-à-dire qu'on a pu faire en sorte que le virus de la variole a disparu du globe. On ne va pas éradiquer le cancer. Pourquoi ? Parce que Éric Vivier a dit au début que le cancer était la conséquence de mutations, d'accumulation de mutations. Or, les mutations, c'est un processus physiologique. Si nous n'avions pas eu de mutation, on ne serait pas là pour en parler parce qu'on serait des animalcules dans une mare originelle et il n'y aurait pas eu d'évolution. Et on ne serait pas devenu ce qu'on est devenu. Donc l'évolution est un processus naturel, nécessaire, obligatoire, impossible à empêcher. Et les cancers sont une conséquence de certaines mutations qui portent sur certains gènes. Il n'empêche que par ailleurs, des expositions à un certain nombre de facteurs augmentent ce taux de mutation. Le tabac est un pur exemple, absolument. Mais il y a aussi des expositions auxquelles on ne peut pas échapper. Les rayonnements de l'atmosphère. Il y a des rayonnements de l'atmosphère. Bien entendu, si on va se faire irradier, et qu'on est irradié accidentellement, on augmente considérablement le risque. Mais nous sommes en permanence irradiés avec des choses. Nous sommes en permanence confrontés à des produits chimiques de l'environnement. Donc, qui augmentent, tous ces facteurs augmentent la fréquence des mutations. Donc, les mutations, un, c'est un processus physiologique qui fait partie de la vie. Deux, on ne peut pas vivre dans des bulles totalement à l'abri de tout ce qui pourrait augmenter ce taux de mutation. Donc, maintenant, pour répondre spécifiquement à votre question, essayer de ne pas fumer, c'est une évidence. Essayer de s'exposer à moins de facteurs qui augmentent ce taux de mutation, ça va de soi. Là, on est dans la prévention. Aller dans un traitement préventif, là, on passe dans un autre type de prévention qui devient plus problématique. Surtout, et là, c'est là que j'avais commencé, surtout quand ça coûte à ce point.
Voilà. Donc, combien coûte en moyenne un traitement d'immunothérapie ? Est-ce que vous pouvez donner une fourchette ?
Je donnerai ensuite la parole à Éric Vivier, parce qu'il connaît ces aspects-là beaucoup mieux que moi, mais une des choses sur laquelle il insiste, et moi j'aimerais insister aussi, c'est que c'est très difficile d'abord d'établir le coût précisément. Pourquoi ? Parce que quand est-ce qu'on commence à compter les coûts ? Ce qu'il faut savoir, c'est que entre la découverte fondamentale qu'Éric Vivier a mentionnée au début, tout ça, c'est des découvertes fondamentales au début, hein. Entre la découverte fondamentale, donc d'un seul coup, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Avec ça, on va pouvoir faire du médicament. Hein. C'est pas pour ça qu'on l'a faite, la découverte. Mais quand on a compris quelque chose, on se dit, mais alors, avec ça, on va pouvoir essayer de faire des médicaments. Entre ce moment-là et le moment où un médicament va être mis sur le marché, il y a à la fois un temps absolument considérable, 20 ans. Hein? Et les chercheurs qui aujourd'hui ont été récompensés cette année par le prix Nobel pour ces découvertes à l'origine de ces nouvelles immunothérapies du cancer.
Oui, il faut rappeler leur nom, hein, l'américain James Allison et le japonais Tatsuko Honjo.
Eh bien, ces deux personnalités, indépendamment, ont fait leur découverte à l'origine de tout cela en 1996. Donc on est exactement 20 ans, hein, 20 ans plus tard, on est un peu plus, mais peu importe. Et l'immunothérapie, elle a commencé avant aujourd'hui. Donc il a fallu 20 ans pour cela. Et pendant ces 20 ans, il a fallu dépenser quelque chose comme 1 milliard d'euros. Donc ça, c'est avant le médicament. Après, il y a le coût du médicament. Et là, Éric Vivier va y répondre beaucoup mieux.
Éric Vivier, juste en quelques mots, une fourchette sur le coût de ces médicaments.
Alors, on peut parler du coût des médicaments qui est effectivement, pour les immunothérapies dont on parle là, aux alentours de 60 000, 80 000 euros par an et par patient, ce qui est effectivement une somme considérable. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Marc Daheron, il ne faut pas aller trop vite sur l'interprétation de ces chiffres. Il ne faut pas simplement comparer un médicament qui ne marche pas avec un médicament qui marche. Si on veut s'intéresser au coût de ces traitements, et c'est un sujet intéressant, il faut considérer le coût total de la maladie, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, à ce moment-là, on voit que c'est évidemment un débat beaucoup plus compliqué.
Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Priorité Santé. Nelly Deschamps, merci infiniment pour votre témoignage. Je vous souhaite le meilleur à vous et à votre famille. Professeur Éric Vivier, Marc Daheron, merci à vous également. Je renvoie nos auditeurs à votre livre, L'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale aux éditions Odile Jacob. Et je remercie nos confrères de Radio France Marseille qui ont permis ce duplex avec vous, Éric Vivier. Priorité Santé touche à sa fin. On se retrouve dans 5 secondes.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.